De l'autre côté de l'étroite enclave continentale de Colon, l'énorme dragon de la Chine rouge est là, curieusement immobile. Il lui suffirait d'allonger l'une de ses pattes de quelques centimètres pour broyer cette dernière petite perle de la couronne, ou de souffler un peu plus fort que d'habitude pour éparpiller comptoirs, marchés, actions et obligations au vent de la mer de Chine.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
À défaut de réinventer le futur, Jukebox ressuscite le passé via une histoire mise en musique. Désormais chaque dimanche à 15h sur France Culture. Bonjour à tous. Voyage aujourd'hui à Hong Kong, alors que se poursuivent les contestations contre la reprise en main autoritaire de Pékin. Nous replongerons dans l'histoire de ce caillou, cette enclave devenue colonie britannique au 19e siècle, puis, par une bizarrerie diplomatique, un îlot libéral aux portes de la Chine. Hong Kong, ses gratte-ciels rutilants, sa finance triomphante, ses inégalités sociales, mais aussi ses parfums, son raffinement, ses actrices et ses chanteuses élégantes. Escale donc dans cette étrange métropole qui, depuis sa rétrocession en 1997 à Pékin, peine à se réinventer des certitudes, un avenir, des horizons. Aujourd'hui, Hong Kong, l'impossibilité d'une île. Du ciel, c'est comme si les étoiles se reflétaient sur la mer d'encre. Des milliers d'étoiles, légèrement mouvantes, se balançant dans l'air chargé d'humidité. Dans cette baie de l'est de l'île, les sampans au mouillage forment une constellation si dense que l'on peut se parler d'un bateau à l'autre. Sur l'une de ces vieilles embarcations, Juan, lui, a du mal à se concentrer sur sa partie de Mahjong. Ses partenaires de jeu et colocataires, des Philippins comme lui, le chambrent, les yeux injectés d'alcool. Ils sont jeunes, forts, confiants en l'avenir. Lui se dit qu'il en a bientôt fini, que bientôt il pourra s'en retourner à Manille, la tête haute, après plus de 15 ans passés dans des chambres moisies, des cales de bateaux, à envoyer chaque semaine ses mandats au pays. Il envoie un texto à sa sœur qui, à cette heure-ci, doit être déjà couchée dans le luxueux appartement de ses employeurs britanniques à l'autre bout de l'île, à Ripples Bay. Les enfants dont elle s'occupe dorment sans doute à point fermé et Teresa a enfin pu installer son mince couchage, une simple planche posée sur la machine à laver. Combien sont-ils au même moment à Hong Kong ou à Kowloon ? À tenter de s'abstraire de cette île aux illusions, de ses néons, ses karaokés, ses buildings futuristes, cette machine à générer des dollars, tandis que les immigrés, les indésirables, les invisibles, se terrent comme des chiens dans les cales humides et les odeurs de bière, à la fragile lueur des lampes tempêtes. Juan annonce qu'il va se coucher. Dans quelques heures, il retournera bosser, gagner quelques billets, à nettoyer les bureaux avec vue d'une banque d'affaires. Mais alors qu'il se hisse dans son hamac, il s'interrompt. Du bateau voisin s'élève un air qu'il connaît. Le son est mauvais, comme si la bande magnétique, à force d'avoir été passée, avait rouillé. Mais malgré cela, il reconnaît cette voix, douce, langoureuse, l'une des premières chansons chinoises qu'il avait entendues gamin, avant de venir tenter l'aventure ici.
Yeah. 属于你是真情和假意，你也不必猜疑。我今晚遇到你，你对我这样甜蜜，我和你在一起，把一切都忘记，在你怀里沉迷。
Écho d'un temps révolu, le charme désuet de la chanteuse Grace Chang, l'une des icônes hongkongaises de la fin des années 50, pour ce Kaibushu Shi Shenmei Kingji, autrement dit, j'ignore ce que tu veux dire.
C'est extrêmement facile à trouver. Vous survolez la côte méridionale de la Chine et dans la baie de Canton, entre de petits nuages légers comme une bouffée de pipe, vous apercevez un îlot d'une douzaine de kilomètres, presque collé au continent, surchargé de bâtiments, environné de bateaux arborant autant de pavillons qu'il existe au monde, de pays ayant une marine ou des relations chez les Grecs, c'est Hong Kong, reliquat exigu et provisoire de feu l'Empire britannique. Vous atterrissez et le dépaysement commence parmi une population encore plus dépaysée que vous depuis longtemps. Le cosmopolitisme atteint ici un degré de concentration inconnu ailleurs. Le passant auquel vous demanderez l'heure dans une rue, qui pourrait être une rue de Londres ou d'Alger, vous répondra en turc, en pakistanais, en anglais, en arménien ou en espagnol. Il peut même arriver qu'il vous réponde en chinois que l'heure n'a aucune espèce d'importance, rien n'étant plus changeant que le temps, ni plus illusoire que la durée.
Hong Kong était jadis devenu britannique à la faveur d'un coup de force. Depuis quelque temps, les navires anglais venaient s'approvisionner en thé auprès des marchands de Canton afin de garantir au sujet de sa gracieuse majesté leur rituel de 5 heures de l'après-midi. Sauf qu'à la fin du XVIIIe siècle, les conditions de ce commerce s'étaient durcies. Après s'être ouvert sous le règne de Qianlong, un despote éclairé, l'Empire du Milieu avait décidé de rompre ses échanges avec les Occidentaux qualifiés de barbares. Ces derniers allaient trouver la parade. Les Britanniques se mettent à importer illégalement l'opium qu'ils produisent aux Indes, via le port de Canton, le seul où ils peuvent continuer de jeter l'ancre. Cantonné à Canton, donc, mais aussi à Macao, concédé aux Portugais, ils se mettent à décharger, de nuit, des milliers de tonnes de cette pâte brunâtre. Les fumeries se multiplient et bientôt les opiomanes se comptent par millions dans toutes les couches de la société chinoise, jusqu'aux mandarins. la boue des Européens cause de tels ravages que les autorités chinoises réagissent et se mettent à confisquer la précieuse contrebande. Les marchands anglais crient au scandale et en 1841, au nom de la liberté d'entreprendre, la reine Victoria dépêche 4000 soldats qui, bien mieux équipés que leurs adversaires, forcent la Chine à se soumettre. Résultat de cette guerre de l'opium, 5 ports de commerce, dont Shanghai et Canton, sont ouverts aux Occidentaux avec droits de douane réduits. Surtout, l'île de Hong Kong est cédée à perpétuité à l'Angleterre. Quasi inhabité, ce n'est qu'un rocher de 46 km², mais il offre un port en eau profonde à l'abri des typhons. Même si rapidement, les marchands anglais se trouvent à l'étroit. Alors en 1860, rebelote. Français et Britanniques exploitent un incident mineur et à la suite d'une opération éclair, la deuxième guerre de l'opium qui les voit fondre sur Pékin, ils obtiennent 11 ports supplémentaires. Le stratagème britannique a fonctionné. À la faveur des traités inégaux, la Chine se réouvre au commerce des biens. Quant à Hong Kong, les Britanniques obtiennent de l'augmenter de terres supplémentaires situées au nord de l'île sur le continent. C'est d'abord la petite parcelle de Kowloon, signifiant la péninsule des Neuf Dragons, mais aussi ce que l'on appelle les nouveaux territoires, 1000 km² cédés en 1898. Sauf que ces nouveaux territoires, eux, ne sont alloués aux Britanniques que pour une durée de 99 ans. Un détail qui aura son importance tant par la suite, celle qu'on appellera Hong Kong s'étendra uniformément sur l'ensemble de ses parcelles au point de ne plus pouvoir être divisée, ouvrant la voie à sa rétrocession intégrale à Pékin. La chanteuse Cho Swan, sur laquelle on reviendra bientôt pour cette chanson qu'on peut traduire par « Une fleur sur ma poitrine » gravée au tout début des années 40. Hong Kong était donc devenue une colonie britannique et ce rocher stérile, cet ancien village de pêcheurs dans l'air duquel flottaient, dit-on, des effluves de bois de santal, s'était métamorphosé. Autour du port, situé sur la côte nord, des entrepôts sont construits où transitent les marchandises débarquées chaque jour par des centaines de voiliers poursuivant le commerce de l'opium avant que celui-ci ne cède le pas à d'autres activités. D'élégants bâtiments coloniaux victoriens à arcades sont érigés sur les hauteurs, bordant le front de mer. Rudyard Kipling, de passage sur place à la toute fin du 19e, note que tout ici respire l'argent. Les taïpans, ainsi qu'on qualifie les hommes d'affaires étrangers, parades en haute forme, vont assister à des courses de chevaux, à l'hippodrome de Happy Valley, siroter un verre au Jockey Club, grimpent au sommet du Pic, la principale colline d'où ils admirent une vue à couper le souffle. Et puis le soir venu, ils assistent au thé dansant du grand hôtel de Ripples Bay ou bien au banquet donné par le gouverneur. Seul inconvénient majeur, l'humidité qui change les cigares en éponges. En 1928 s'ouvre le Peninsula, le plus prestigieux des palaces d'Orient. Riches touristes viennent y jeter leur malle avant de sortir se promener en pousse-pousse. L'après-midi, ils regagnent l'établissement, passent leur smoking ou leur robe de soirée pour des après-midi dansantes. Quant aux Chinois eux-mêmes, ils sont soumis d'emblée à une forme de ségrégation, interdits de résider dans certains quartiers. Ils servent de main-d'œuvre bon marché, de domestiques ou de pourvoyeuses de plaisir dans les maisons de passe qui pullulent. Certains, pourtant, tirent leur épingle du jeu, servant notamment d'intermédiaires aux marchands britanniques. Culturellement, ces années-là, à Hong Kong, on écoute alors le Yeyu Chidaitsu, sorte de fusion mêlant orchestre de jazz à des voix féminines au perché. Mais peu à peu commence à émerger ce que l'on va appeler la cantopop, des chansons populaires chantées en cantonais, la langue locale. La première grande diva du genre s'appelle Chow Suan. Née dans une famille pauvre, puis vendue à l'âge de 3 ans, elle avait été élevée à Shanghai, où elle était devenue actrice. Puis, en 1946, elle avait gagné Hong Kong, où elle avait joué dans plusieurs films, à commencer par Chang Tiang Tsi, un amour dévorant, dans lequel elle interprétait la chanson suivante. La chanteuse Chow Suan pour ce titre de 1946. Entre-temps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hong Kong avait subi l'occupation japonaise. Et puis en 1949, tandis que Mao et les communistes prennent le pouvoir à Pékin, forçant Chiang Kai-shek à trouver refuge à Formose, la colonie britannique était restée à l'écart. Étrangement, d'ailleurs, tant il aurait été aisé à l'armée populaire de fondre dessus et de la récupérer. Une retenue qui, selon les historiens, témoignerait d'un pragmatisme stratégique des communistes, conscients des avantages de la proximité immédiate d'une enclave capitaliste, d'un sas sur l'Occident, comme l'écrit Denis Hio dans son livre « Hong Kong, rendez-vous chinois ». Alors Hong Kong avait poursuivi, comme si de rien n'était, son odyssée. Entre 45 et 50, sa population triple, passant de 600 000 à 1,8 million d'habitants. De nombreux habitants de Shanghai, cette ancienne Paris de l'Orient, désormais sous autorité communiste, viennent s'y installer. Industriels, financiers, ces nouveaux bourgeois participent à l'essor de la cité. On trouve aussi beaucoup d'artistes, des chanteuses se produisant dans les boîtes de nuit de Kowloon et qui souvent jouent les actrices au sein d'une industrie du cinéma naissante. Des studios ouvrent ceux de la Cathay ou bien les studios Shaw, multipliant les films de kung-fu mais aussi d'innombrables mélos cantonais. En 1949, débarque ainsi de Shanghai la jeune Grace Chang dont on parlait au début de cette émission. Dès 52, elle s'illustre dans plusieurs films, notamment aux côtés de Clark Gable. Surnommée Mambo Girl, elle se tourne ensuite vers la musique, enregistrant 4 albums. Toutefois, à l'époque, la musique qu'on écoute à Hong Kong reste essentiellement occidentale, synonyme de bon goût. La cantopop reste limitée à l'opéra traditionnel ou bien à des interprétations comiques de tubes occidentaux. Exemple avec le chanteur Chi Jen Deng qui en 65 publie ce Never on Sunday, reprise de la chanson Les Enfants du Pirée, composée en 1960 pour un film de Jules Dassin et d'abord interprétée par Mélina Mercouri.
我咁真唔真㗎？冇冇唔真啊！佢又做祭水官㗎嘛，傍狗水俾佢，整多兩個鐘頭水喎。咁啊好值㗎！有水啊值得嘅嗱，啲錢500蚊，你快啲拎去搞掂佢啦。
哦好，我去啦嚇。
去啦，
喂老等，哎呀乜你咁耐都唔落嚟嘅啫？我等你跳舞啊！
死啦，穿晒煲啦。
哦，原來你想滾我500蚊去，滾去人係嘛？快啲拎翻嚟啊！
我同你講啊，小姐，唔好嬲啊大人啊！
茶明失驅，
哎，真衰嘅，大人。
犯了欺騙罪，
認罪啦咩？
唯望你恕罪。
哦，你就想啦。
咪當將犯累，麻麻地啦，大人。
门我为片水分你担四过山为淡水分担一天半米醉
哎呀死了唯有认巨水为济水想变水加倍水担担大桶长山去我去了大人
Mais cette apparente joie de vivre, cette indolence, cache déjà quelques turbulences. C'est que Hong Kong a bâti sa fortune sur un capitalisme échevelé, conduit par quelques-uns, riches et souvent occidentaux, d'où une certaine frustration. À Hong Kong, où la famine engendrée par le grand bond en avant chinois de la fin des années 50 a fait affluer des centaines de milliers de paysans, venus notamment du Guangdong, débarqués avec leur seul baluchon, la misère se développe. Les nouveaux venus fournissent une main-d'œuvre servile dans les petits ateliers de confection, de fabrication de jouets en plastique, d'assemblage de transistors, puis par la suite de fabrication de composants électroniques. La ville compte alors plus de 3 millions d'habitants et commence à souffrir de surpopulation. Une situation qui émeut jusqu'à Londres où en 64, le nouveau gouvernement travailliste fait pression sur l'administration coloniale pour qu'elle résolve cette situation. Mais en 1966, il suffit de l'augmentation du tarif de la traversée du ferry entre Kowloon et Hong Kong, indispensable à des millions de travailleurs, pour que s'allume la première mèche. Et puis, en mai 67, une grève dans une usine de fleurs artificielles, sévèrement réprimée par la police, plonge Kowloon dans 3 jours d'émeutes. Le gouvernement colonial instaure un couvre-feu et arrête 800 personnes. Cette colère sociale prend aussi des tours plus directement politiques. C'est qu'au même moment, en République populaire, Mao fait trembler la Chine via les purges de sa révolution culturelle. La contagion gagne Hong Kong, des militants d'extrême gauche hurlent des slogans en pleine rue, le petit livre rouge est brandi sous les fenêtres du gouverneur britannique. Surtout, une série de bombes explose dans la rue et dans des cinémas semant la terreur et le sang, même si, in fine, la population hongkongaise prend ses distances avec le mouvement. Dans les années 50 et 60, alors que le Made in Hong Kong textile s'exporte dans le monde entier, la cantopop, elle, ne décolle pas. Chantée en cantonais, ou bien en mandarin d'ailleurs, continue d'apparaître vieux jeu. À Hong Kong, comme ailleurs, la musique qui marche, c'est le rock, la pop, Elvis Presley ou les Beatles. Ces derniers donnent d'ailleurs un concert sur place en 64. Des groupes locaux se mettent à les imiter, comme The Continentals qu'on entend en ce moment, qui se produisent les samedis et dimanches après-midi dans les boîtes de nuit et les restaurants chinois de Hong Kong ou Kowloon, attirant un public jeune. Parmi les autres groupes, l'un de ceux qui creusent la veine la plus originale s'appelle Teddy Robin and the Playboys, un groupe formé autour d'un certain Wai Pang Kwan, né dans la province voisine de Guangxi. Le groupe sort quelques albums, comprenant notamment ce très psychédélique Magic Colors. France Culture, Jukebox, aujourd'hui Hong Kong, que la liberté règne. We'll be right back.
shakes and black. I'm so alone, I wanna go back.
Léon Conguet de Teddy, Robin and the Playboys pour ce Magic Colors 1969. Et puis il y a The Chopsticks, les baguettes, un duo pop formé par deux jeunes hongkongaises, Sandra Lang et Amina, le premier groupe de musique moderne entièrement féminin, commercialisé et lancé depuis Hong Kong sur le label Crown Records. À cette époque, les jeunes s'abreuvent de pop tout en apprenant l'anglais, en écoutant les émissions d'un célèbre DJ, Uncle Ray Cordero, qui officie sur une radio publique. Parallèlement, la pop chantée en mandarin, la langue officielle chinoise, se diffuse de plus en plus. Mais le public hongkongais reste sur sa faim. Il réclame lui aussi une musique populaire chantée dans son dialecte. Le phénomène de la cantopop naîtra véritablement un soir de mars 1974, lorsque dans une série télévisée est diffusée Tai Su Yan Yun, autrement dit le destin qui transforme un mariage en rire ou en larmes, interprété par une certaine Sandra Lang.
Don't eat. 齐祝旅，缘分天赐不变，缘分。
L'une des pierres angulaires de la cantopop avec ce titre de la chanteuse Sandra Lang, 1974. Dans les années 70 et 80, grâce à la télévision, c'est enfin l'essor de la cantopop, donc son âge d'or, les premières stars émergent. Tout comme Sandra Lang, Sam Huey se fait remarquer en signant le générique d'un film dont il tient le premier rôle. Et puis il y a Francis Yip, élevé dans une zone rurale de Hong Kong et qui, par ses chansons et celles que l'on entend en ce moment, devient l'ambassadrice du genre. C'est à cette époque qu'intervient le décollage spectaculaire de Hong Kong. Tandis que les habitants les plus pauvres sont relégués dans les zones périphériques surpeuplées, d'immenses fortunes se constituent entre les mains de magnats de l'immobilier, de l'industrie ou du transport maritime. Les entreprises d'hier ayant délocalisé leur production en Chine, où les salaires y sont encore plus faibles, Hong Kong, d'une ville atelier, devient une ville de sièges sociaux et singulièrement de banques. La ville change, on démolit les vieux bâtiments que l'on remplace par des gratte-ciels démesurés, dessinés par les plus grandes signatures, Norman Foster ou Yeo Ming Pei, en fonction de normes antisismiques, mais aussi des conseils des géomanciens, seuls à même d'arbitrer entre les forces du bien et celles du mal. Hong Kong prend des allures de Manhattan de l'Orient. Au son des marteaux-piqueurs, Central, le quartier des affaires, devient la plus grande concentration au monde d'établissements bancaires, voyant s'épanouir des milliardaires qui veulent tous leur Rolls-Royce. Les appétits voraces illustrent l'urgence. C'est comme si l'on prenait conscience que le temps était compté, que la fin de la récré serait bientôt sifflée, que l'air béni d'un Hong Kong britannique et dérégulé n'allait pas durer. De fait, depuis 79, les Britanniques tentent bien de négocier un statut spécial, mais les Chinois de Deng Xiaoping refusent tout compromis. Hong Kong étant indissociable des nouveaux territoires continentaux cédés pour 99 ans seulement, l'ensemble devra être restitué en 1997, archive Antenne 2, 1984.
Hong Kong-Chine, telle sera à partir de 1997 l'appellation officielle du territoire dont la Grande-Bretagne a signé aujourd'hui la reddition à la Chine. Un accord historique sur registre de velours rouge, la couleur du bonheur en Chine, accord paraphé à Pékin par le Premier ministre britannique, Madame Thatcher, et son homologue chinois, Maurice Werther.
L'accord signé aujourd'hui solennellement à Pékin par Madame Thatcher avec Monsieur Zhao Ziyang, le Premier ministre chinois, en présence de M. Deng Xiaoping lui-même, cet accord a déjà été paraphé le 26 septembre. Il prévoit le retour de Hong Kong sous la souveraineté chinoise le 1er juillet 1997, soit dans moins de 13 ans. Il accorde des garanties en matière économique et financière. Hong Kong ne sera pas soumis aux règles du système économique et social communiste. Le régime capitaliste restera en vigueur pendant au moins 50 ans. Hong Kong sera une région administrative spéciale.
Thank you.
À l'image du chanteur Leslie Cheung, étoile de la cantopop qui, dans cette chanson publiée en 87, clame son refus de jouer encore et encore le rôle de conquête d'un soir à des corps assoiffés de sensations, à la fin des années 80, Hong Kong marque le pas. Il y a d'abord l'aggravation des inégalités sociales. À côté du meilleur des mondes, incarné par les gratte-ciels de verre et de granit rose du quartier des affaires, des centres commerciaux et des hôtels de luxe, la majorité des 5 millions de Hongkongais s'entassent dans des cités champignons, des HLM exigus et insalubres, voire, dans le pire des cas, dans des logements-cages de moins de 5 mètres carrés. Symbole de ces conditions de vie parfois moyenâgeuses, la citadelle de Kowloon, un immense ghetto, enchevêtrement anarchique de constructions successives où la lumière ne pénètre pas plus que la police et où, dans les années 80, s'entassent 35 000 personnes. Et puis il y a la criminalité. Sur l'île même de Hong Kong, Wan Chai, à deux pas du quartier des affaires, déroule ses néons, ses maisons de passe sordides. Les filles qui bossent sont désormais des gamines, philippines ou thaïlandaises, tentant de survivre. À Wan Chai, ou bien encore à Mongkok, les membres des triades, ces anciennes sociétés secrètes d'entraide reconverties dans l'argent sale, y font la loi. Trafic de drogue, prostitution ou encore, dans les années 90, vol de voitures à grande échelle. Rolls, Bentley, Mercedes, tout y passe. Ces voitures aux couleurs criardes sont exfiltrées de nuit sur de puissants hors-bords avant d'être revendues en République populaire voisine. Politiquement, la répression de Tiananmen en 1989 sonne de façon inquiétante aux oreilles des Hongkongais. Une opération d'exfiltration de 400 opposants vers l'Occident a d'ailleurs lieu via Hong Kong. Pékin grince des dents, mais continue patiemment de préparer la transition, le monde d'après. Et puis, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1997, la page se tourne. À minuit, après 156 années de souveraineté britannique, Hong Kong retourne dans le giron chinois.
President Jiang Zemin, Premier Li Peng, distinguished guests, ladies and gentlemen, this important and special ceremony marks a moment of both change and continuity in Hong Kong's history. It marks, first of all, the restoration of Hong Kong to the People's Republic of China, under the terms of the Sino-British Joint Declaration of 1984, after more than 150 years of British administration.
Lors de la passation de pouvoir retransmise à la télévision, les discours britanniques se sont voulus rassurants. Un gigantesque feu d'artifice a illuminé le ciel de la ville. Les toasts diplomatiques se sont enchaînés lors du dîner officiel. Mais le lendemain, les Hongkongais se terrent chez eux. La pluie les y aide, bien sûr, mais l'incertitude domine. Pékin a promis l'application de la doctrine « un pays, deux systèmes », incluant notamment le maintien du multipartisme ou bien des lois propres sur l'immigration. Mais il n'empêche. La veille, beaucoup ont glosé sur les 12 longues secondes de silence qui ont suivi la dernière diffusion du « God Save the Queen » avant que ne retentisse pour la première fois l'hymne communiste. Et puis surtout, dans la nuit, Pékin a dépêché 4000 soldats. Toutefois, la première secousse suivant la rétrocession est moins sécuritaire qu'économique. L'été 97, une crise financière secoue l'Asie du Sud-Est et se propage à l'automne à Hong Kong, faisant chuter son marché de près de 22% en une semaine. Suivra en 98 l'explosion d'une bulle immobilière. Malgré la conversion de la Chine à l'économie de marché 20 ans plus tôt, la transition de Hong Kong s'avère difficile. Culturellement, la fin des années 90 voit le déclin de la cantopop, d'autant que disparaissent certaines de ses grandes voix comme Leslie Cheung ou Anita Mui. Et soudain resurgissent des chansons au relent nationaliste, comme lorsque le chanteur Andy Lau interprète en mandarin une chanson « Zongo Ren ». Le début des années 2000 est marqué par les tractations entre le gouvernement local et les autorités de Pékin concernant l'application de la démocratie, l'élaboration d'une nouvelle constitution. Des manifestations monstres ont lieu, comme à l'été 2003 où 500 000 de personnes défilent. L'inquiétude persiste jusqu'à l'annonce en 2014 d'un projet de loi visant à limiter la possibilité de se présenter au siège de l'exécutif local. Les militants pro-démocratie redescendent alors dans la rue.
Des matraques contre des parapluies. Pour déloger les manifestants du centre de Hong Kong, la police emploie la manière forte. Deux mois que ces étudiants et leurs professeurs réclament plus de démocratie dans cette ancienne colonie britannique rendue à la Chine en 1997. Deux mois que le pouvoir, aux ordres de Pékin, refuse la moindre concession.
Le gouvernement fait tout pour éviter de répondre à ceux qui réclament des réformes politiques. Alors, si on veut le forcer à nous écouter, nous devons augmenter la pression.
C'est parce qu'ils ont tenté hier d'encercler le siège du gouvernement que l'ordre a été donné d'intervenir. Sans ménagement. Il y a quelques jours, on disait que le mouvement de contestation commençait à faiblir. La répression des dernières 48 heures pourrait bien lui donner un nouveau souffle.
It is the music of a people who will not be slaves again.
La jeunesse hongkongaise investit donc les rues et pendant des mois bloque le centre-ville. Ils se montrent créatifs, brandissant des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes. La rébellion se trouve un hymne dans la chanson « Do you hear the people sing ?» popularisée par la comédie musicale « Les Misérables », référence à l'insurrection de Paris en 1832. Certains artistes se mobilisent. Ainsi, Denise Ho, dite OCC, une jeune chanteuse née en 1977, militante qui avait fait son coming out en 2012, elle s'engage dans la mêlée. Critiquée pour cela par le régime, lâchée par son sponsor, elle enregistrera en 2014 avec d'autres artistes la chanson suivante qui deviendra le symbole des protestations, Raise the Umbrella.
正在人海，你我非不怕，每畏惧这样下去怎办？但是人生到了这一晚。
感怕未表白内心呼喊，站在前方，勇气却不散，却信越怕命运更暗淡。但是谁想要看穿风灯，却会在催泪下睁开眼。 一起举手，一起的吵，一起尽管不安，却不孤单，对吗？一起举手，举起手撑，一起为应得的放胆争取爸妈，任暴雨下。
Raise the Umbrella, brandissez votre parapluie, par entre autres la chanteuse Denise Ho en 2014. Finalement, le projet de loi contesté de 2014 avait été retiré quelques mois plus tard, mais on le sait, la mobilisation des militants pro-démocratie hongkongais s'est depuis poursuivie, ranimée au printemps 2019 par un autre projet de loi visant cette fois l'extradition vers la Chine continentale d'individus suspectés de crimes. La réponse est immédiate. Le 16 juin, ils sont 2 millions à protester dans les rues, soit plus d'un habitant sur quatre. Les protestations sont là encore dopées par la créativité des manifestants, comme l'illustre un hymne à Hong Kong composé par un anonyme et diffusé via Internet l'été 2019. Cet hymne clamant « Plus de larmes sur nos terres, nous nous tenons dans la colère, que la liberté règne ». L'engouement est tel que l'été 2020, les autorités interdisent aux écoliers de le chanter. La musique qui n'en finit pas d'irriguer le mouvement partout, dans les stades, les centres commerciaux, des duels de chants ont lieu entre pro et anti-gouvernement. Pour autant, malgré cette énergie, malgré cette créativité et malgré le soutien notable de certains Hongkongais comme le milliardaire Jimmy Lai, la poursuite du mouvement, de plus en plus ouvertement critiquée par les classes aisées, semble aujourd'hui incertaine.
是我，如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走啊？
佢此其山下有一门小门屋村坊，大懒堂的系掌门人，我系。
第十八代要打出个名堂，五个二又打出个代，宝刀出鞘，师傅出马，打交出事，又马交出果，唔系好识耍罗汉拳，但系就成日食罗汉果。五十五重天，薄荷冰火，炼狱女心经怕走火，哎呀又射歪咗，异形换领屎忽一零，睇住嗰两个麻甩佬又入埋同一隔厕所，唔系耍个网话匿埋喺入边拆迷魂锁，有冇搞捻错？豪放北派四味分下呢头超完头冇转头，又话有天蓬派揽住两件骑呢怪，一王三后大格斗，又睇下边个够快，主一声就话派晒软脚蟹。各位乡亲叔父为埋嚟听我讲古，武力是最寂寞，断古冇痛苦。各位乡亲叔父为埋嚟听我讲古。目的是最寂寞，断孤无痛苦。各位乡亲叔父为埋嚟听我讲古。目的是最寂寞，断孤无痛苦。各位乡亲叔父为埋嚟听我讲古。目的是最寂寞，断孤无痛苦。礼拜二四就乜投资站，拿住沓冇用奖券，输咗就算，赢咗都唔使咁臭算。柯南史居日都仲要搵人搞，电光毒龙转，阿老细又有冇关注？算。
C'est sur le hip-hop du groupe LMF, Lazy Motherfucker, formé en 93 à Hong Kong et dont les textes dénoncent l'oppression économique et l'aliénation sociale des classes populaires, que se referme ce numéro de Jukebox, aujourd'hui Hong Kong, l'impossibilité d'une île. Merci à Chloé Catelin qui nous avait soufflé l'idée de cette émission. Merci également à Virginie Gresset, Georgi Daskalov et Lily Cornert pour leur préparation, ainsi qu'à Sophie Enoch, Alina. Rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter ou télécharger cette émission. Vous y retrouverez également les références des morceaux et des archives diffusées, ainsi que la possibilité de nous écrire. À la technique aujourd'hui, c'était Delphine Baudet, Agnès Catou à la réalisation, au micro et au studio à Maurice Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox.
Can't